Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Qui d'entre vous, amis auditeurs, n'a pas envie d'améliorer sa communication et ses relations humaines? Certains paient même très cher des spécialistes pour améliorer leur communication. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Dulude. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors, tu es docteur en neuropsychologie, on va voir tout à l'heure ce que c'est, il va falloir que tu nous l'expliques. Tu pratiques et enseignes la psychologie de la communication et tu as écrit un livre curieusement titré « Je suis un chercheur d'or ».
Oui.
Alors, d'abord, docteur en neuropsychologie, qu'est-ce que c'est ?
Ben, tout simplement, c'est un doctorat, c'est un PhD, recherche typiquement, qui se concentre sur un des volets de la psychologie. Parce que dans la psychologie, c'est comme une espèce de grande science qui se sous-divise en familles. Et une de ces familles-là s'appelle la neuropsychologie. Et il y a d'autres familles, il y a la psychanalyse, par exemple, il y a le cognitivo-comportemental, l'approche humaniste, il y a toutes sortes d'approches. Et une de ces approches-là, c'est la neuro. Et donc, j'ai fait mon PhD en neuropsychologie dans ce volet-là parce que je m'intéressais au fonctionnement cérébral. Le volet de neuro, c'est le volet assez, c'est moins vaporeux que les autres approches.
Ah d'accord.
C'est plus...
Tu penses que la psychologie en général est un peu vaporeuse?
C'est une tendance à la vapeur. C'est une petite tendance à la vapeur, ce qui est normal. Hein? On est dans l'abstrait, on est dans l'intangible. Mais le côté neuro, c'est le côté un petit peu plus hardware, si je peux dire, cérébral.
Alors écoute, tu sais, j'ai une question rituelle dans cette émission, mais
d'accord.
Là, c'est quel petit garçon étais-tu?
Quand j'étais
petit garçon. Mais tu l'expliques au début du livre.
Oui, c'est
mais
ça.
Mais c'est très mignon d'ailleurs, quand tu cherches de l'or dans les cailloux.
Ben c'est ça, hein. Tu parlais du titre du livre, hein. Je suis un chercheur d'or, c'est parce que j'ai pas le sentiment d'avoir changé tant que ça. Je cherche toujours la même chose, je cherche toujours de l'or et j'ai simplement améliorer mes techniques de recherche, si je peux dire. Et c'est de l'or, je dirais, plus humaine. Quand on parle de potentiel humain, on parle de ressources, on parle de talent, on parle de relations, on parle de potentiel, de ce qui se passe à l'intérieur de la tête. Donc, c'est pour moi, la psychologie, c'est une stratégie pour mieux rechercher le potentiel humain. Et donc, ce que j'ai voulu exprimer dans le livre, c'est qu'on... On n'a pas besoin de faire un doctorat en psychologie pour comprendre ça. Il s'agit d'augmenter nos habiletés de dialogue et c'est ce qui va faire en sorte que cet accès-là dans notre propre potentiel et dans le potentiel de l'autre et dans le potentiel de la conversation elle-même et de la relation, ben, et là, ça apparaît.
Alors, le petit garçon, tu es né au Canada, ça
oui.
On l'entend.
Oui.
D'accord.
J'essaie de le cacher, là, je me force.
N'essaie pas de le cacher parce que c'est très sympa. C'est très sympathique, on aime bien les Canadiens. Alors, petit garçon, tu es chercheur d'or, on l'a bien compris, on va encore revenir là-dessus, mais tes parents,
oui.
Faisaient-ils?
Oui. Ma mère est toujours, en fait, professeure à la maternelle, donc c'est une éducatrice. Donc,
et ton père?
Mon père, il a fait toutes sortes d'emplois, il y a eu une entreprise d'installation d'enseigne, il y a eu une usine, il était très manuel, très technique, il construisait des choses, il construit encore des choses.
D'accord.
Donc j'avais ces deux
côtés-là.
Alors
quand tu es petit, ben, tu es très entouré quand même.
Oui, oui.
Très, hein?
Oui, très. Très, ouais. Je suis très, j'ai été très encouragé en fait dans mes passions. J'ai été aussi éduqué à la discipline, je dirais. Je pense que ça a transpiré beaucoup. Je suis très, très, très reconnaissant de ça en fait.
Alors, tu es donc un chercheur d'or. On a compris que l'or, c'est la valeur humaine qui mm-hmm. se cache chez chaque homme. Mm-hmm. Tu as commencé par aller à la rencontre de tribus vivant de manière traditionnelle depuis des millénaires. Tu peux nous expliquer ça? Pourquoi?
J'ai commencé à... En fait, c'est arrivé un petit peu en même temps dans ma vie, l'espèce de découverte de cet amour-là, de la psychologie, du cerveau, du sens aussi, du sens de la vie, pourquoi on se comporte de telle ou telle façon, qu'est-ce qu'on poursuit comme être humain, et comment les cultures, dans le fond, ce sont des espèces de ce que j'appellerais des personnalités, mais de groupes, qui visent toujours la même chose, hein? Dépendamment des cultures, là, les cultures varient dans leurs priorités, mais on aspire à des choses relativement semblables. Et,
Mais le départ, un matin, tu t'es réveillé en te disant, je veux aller découvrir ces gens-là?
Ah, le vrai point de départ, c'est qu'il a fallu que j'arrête la natation de compétition.
Alors voilà, ça on va en parler aussi parce que c'est très important.
OK.
Parce qu'on part de là quand même. Hein?
D'accord, oui.
D'accord.
Oui.
Parce que là, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, presque bouleversé de penser que tu étais ce petit garçon maladroit dans l'eau, qui n'arrivait pas à avancer, qui voyait les autres qui nageaient très vite et qui te demandaient comment ils faisaient.
Oui, oui.
Et puis, c'est pas les moniteurs, hein, c'est pas les professeurs qui t'ont appris de natation.
Non, pas tant que ça.
C'est tout à fait autre chose.
Oui.
Alors, raconte.
C'est ça. Ben, en fait, la natation, pour moi, c'est le sport qui a changé ma vie parce que pour moi, ça a été une métaphore de qu'est-ce qu'un humain... Comment un humain opère ses forces, transfère son énergie dans son environnement et comment on est capable de passer d'une intention mentale à un comportement observable et avec un résultat observable, comme par exemple l'efficacité dans une nage. Et pour moi, ça a été ça, le sport, ça a été ça, la natation.
Puis... Tu t'appuyais sur l'eau, tu as expliqué qu'on s'appuie sur l'eau, ça paraît extraordinaire, ça.
Oui. Oui, c'est extraordinaire. Je veux dire, j'ai passé ma vie à nager, enseigner la natation, décortiquer la technique de natation, mais il y a quelque chose de fascinant là-dedans. L'eau, à certains moments, elle réagit d'une façon spéciale avec une bonne technique, c'est-à-dire qu'il y a des endroits qui deviennent solides, des prises dans l'eau, et momentanément, tu peux t'appuyer dans l'eau, et parce que tu peux t'appuyer dans l'eau, ton corps glisse par-dessus ton appui, et c'est ce qui crée cette dynamique-là.
Alors, tu es un petit garçon, ou un jeune homme, qui a beaucoup de difficultés à nager, qui est malheureux sur les bords de la piscine, qui ne sait pas comment faire, et puis un beau jour, à force de travail, à force de devenir compétent, à force de réfléchir, en fait, c'est très mental, hein, ce que tu fais comme... C'est plus mental que physique, finalement. Tu vas réussir à être parmi les 20 meilleurs nageurs du Canada. Oui, c'est quand même un miracle, ça.
À quelque part, oui, parce que ce qui est un miracle, en fait, c'est que les choses s'apprennent. C'est incroyable à quel point le cerveau peut se développer avec une bonne technique si c'est bien enseigné. Et ça révèle des choses qu'on ne pensait pas qu'on pouvait faire.
Alors que c'est physique, on est d'accord.
Tu veux dire le fait de nager?
Natation, c'est physique.
C'est une matérialisation physique, mais le point de départ n'est pas physique. Le point de départ, il est très psychologique, il est très mental, il est très au niveau de la conscience, des processus. Bref, tout ce qui m'a amené à m'intéresser à la psychologie, finalement.
Bon, alors on va écouter un peu de musique avant de continuer ensuite à savoir pourquoi tu es parti chez les Adzabé.
Oui.
C'est bien ça, hein?
Oui, c'est ça.
Alors, qu'est-ce qu'on écoute?
On va écouter Matt Ulubowski, Eyes Wilder.
Radio Cité Genève, Viviane DeVitte.
La bouteille à moitié pleine.
Why?
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Guillaume Dulude, qui a écrit un livre qui s'appelle « Je suis un chercheur d'or ». C'est sous-titré « Les mécanismes de la communication et des relations humaines ». Alors, mon cher Guillaume, on a vu que tu as vu qu'à force de travail, de compétences, tu as réussi à t'appuyer sur l'eau pour devenir un grand nageur, alors qu'au départ, tu n'étais pas très doué, disons-le.
Exactement.
Donc, un travail mental pour réussir quelque chose de physique.
Oui.
Et puis, tu décides, donc, je crois en 2005, tu pars chez les Hadzabé en Tanzanie.
Oui.
Où est-ce que c'est la Tanzanie? Je t'avoue que je ne sais pas où c'est.
C'est au sud du Kenya, c'est en Afrique centrale, côté
D'accord.
Est.
Alors, pourquoi tu as choisi la Tanzanie?
C'est parce que, en fait, les Hadzabé, c'est une des dernières communautés qui vivent encore traditionnellement, qui chassent à l'arc de façon nomade. C'est extrêmement rare maintenant. Toutes les tribus et les communautés isolées comme ça disparaissent. Les temps changent, les choses avancent, donc il y a des choses qui disparaissent. Donc ces traditions-là se perdent et je voulais prendre contact avec ces peuples-là. Et je pense que, je ne sais pas pourquoi exactement, je pense que j'ai toujours été attiré par ce type de mode de vie-là depuis que je suis petit. C'est dur à retracer exactement, hein, tu sais, un intérêt ou pourquoi tu es en amour avec quelque chose.
Tu avais lu des choses étant enfant?
C'est quoi?
Tu avais lu des livres sur ces régions-là étant enfant ou sur ces peuplades primitives?
Plus ou moins, j'ai été beaucoup influencé par Indiana Jones.
Indiana Jones,
ça,
oui.
c'était plus présent pour moi. J'ai toujours aimé l'espèce de monde de Cro-Magnon aussi, là, tu sais, vivre dans une grotte et tout ça avec le minimum, se faire un feu. Je ne sais pas pourquoi, c'est une image qui me plaît. Je me suis toujours un petit peu identifié à ça. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais aller rencontrer ça pour vrai.
Alors, tu es donc parti en Tanzanie, tu es parti rejoindre ces peuplades. Tu as survécu avec un arc et quelques flèches, c'est bien ça?
Oui, oui, oui.
Et tu as essayé la chasse aux impalas. Il faut
oui.
expliquer ce que c'est l'impala aussi. Je suis allé voir, moi, dans un dictionnaire. À quoi ressemblait l'impala?
L'impala, c'est une espèce, petite antilope.
Voilà,
oui, ça fait l'antilope de la famille. Là. C'est une plus grande famille. Donc, c'est une petite antilope qui vit en groupe et qui est très commune partout en Afrique. À partir de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Et c'est une proie très qui est populaire auprès des lions, disons.
Des lions?
Oui.
Et
oui.
Apparemment, ça l'était aussi auprès de toi, puisque tu as cherché en tuer une pour la manger.
Oui, c'est ça.
Tu avais très faim.
Oui, c'est ça. Pendant que j'étais en Tanzanie, je faisais un bout par moi-même, un bout tout seul. Et donc, je devais essayer de me débrouiller par moi-même. Et j'avais mon arc et mes flèches, donc j'essaie de me rapprocher de ces impalas, d'une impala.
Et là, il s'est passé quelque chose. Hein?
Oui, parce que c'est très difficile, hein? S'approcher d'un animal, on ne se rend pas compte que les animaux communiquent entre eux. Donc, les différentes espèces communiquent sans arrêt. Donc, il y a une communication interespèce, que ça part de la girafe jusqu'au grillon au sol, jusqu'au babouin. Donc, toute la jungle travaille ensemble. Et toute la jungle interagit et était capable de détecter ma présence. Donc, ça faisait en sorte que c'est extrêmement difficile de se rapprocher à portée de tir d'un groupe de 200 impalas où leurs sens sont hyper aiguisés.
Là, tu avais tout le garde-manger d'un seul coup, là.
Ben, c'est ça, mais c'est que tu as tout le garde-manger, mais le garde-manger est excellent à détecter tout ce qui se passe autour. Donc, c'est
oui, alors, j'ai quand même, ça m'a beaucoup amusé de lire qu'à un moment, tu as armé ton arc et
oui.
ta flèche.
Oui.
Tu avais bien tout l'impala dans l'angle de tir, et puis là, il y a un moustique qui t'a gratouillé, et puis tu as tout perdu.
Oui, en fait, c'est ça, ça va jusqu'aux fourmis. En fait, j'avais mal calculé.
Fourmi.
C'est ça, j'étais caché en arrière d'un buisson et donc j'étais appuyé sur ma main en attendant le bon moment. Et là, il y a une fourmi qui m'a mordu, mais qui a alerté les autres. Et donc, il y avait une fourmilière juste sous moi, donc ça m'a complètement...
Tu sais, c'est formidable d'entendre une fourmi qui a alerté les autres. Ça nous fascine, ça.
Mais c'est un autre niveau de communication. Les insectes, ils communiquent de façon extrêmement précise par différents signaux comportementaux et chimiques, et leurs signaux sont rapides, et c'est très impressionnant parce qu'ils peuvent synchroniser des centaines, des milliers d'individus pour des tâches précises avec des buts communs. Imaginez des buts communs. On a de la difficulté comme humain à organiser nos intentions communes, nous, avec 50 milliards de neurones par cerveau. Imaginez des fourmis, ça organise des buts communs en un claquement de doigts. C'est extraordinaire.
Alors comment ça se fait qu'on soit si handicapé par rapport aux fourmis?
C'est une bonne question. Je travaille à comprendre pourquoi, mais c'est sûr que plus tu multiplies le potentiel d'un organisme, plus faut que tu multiplies sa capacité à prendre en charge son potentiel. Donc, il suffit pas d'avoir beaucoup de neurones, il faut aussi savoir quoi en faire et quelle responsabilité prendre et comment synchroniser ça avec des intérêts qui sont partagés. Donc, je pense
qui sont antagonistes. Les intérêts.
C'est ce qui se passe, mais idéalement, le but de la communication, c'est de savoir mais comment on pourrait faire pour trouver des éléments communs, partager des buts communs, ce qui justifie la création des relations qui sont stables. Ne serait-ce dans le couple, c'est très difficile de garder un couple à long terme aujourd'hui.
Ça, tu as raison, parce que pour la bonne raison qu'à l'époque où on nous a dit qu'il faut rester éternellement avec son mari ou sa femme, on vivait tellement pas longtemps qu'on restait, 10 ans ensemble maximum. Mm-hmm. Imagine, aujourd'hui, tu restes 70 ans avec la même personne.
Donc, ça implique des nouveaux défis. Puis en plus, les gens ont de moins en moins de buts communs parce que le but primaire, commun, facile, c'est d'avoir des enfants, alors que maintenant, les gens choisissent de ne pas nécessairement avoir d'enfants. OK, parfait, mais quels sont nos buts communs? On avance vers quoi ensemble? Comment on fait pour résister à toutes les tentations et toutes les distractions qu'il y a autour? Donc, tout ça, ça fait partie
des... C'est pour ça qu'on change. On change plusieurs fois au cours d'une vie, en général.
Le changement, c'est une chose, mais le but, c'est quand même d'avoir des relations positives.
Pour ça qu'on change.
Tu veux dire de change de partenaire?
Oui.
C'est ce qu'on essaie de faire, mais la question, c'est est-ce qu'on réussit?
Puis les études qu'on est allé éternellement à la recherche d'un idéal qui s'échappe au fur et à mesure?
En partie, parce qu'il y a de plus en plus de difficultés à trouver vers quoi investir. Et donc, on est bombardé de stimuli, on est bombardé de mirages ou d'idéaux, et c'est très difficile de savoir de quoi on a vraiment besoin, quel est le sens de nos actions, quel est le sens de nos investissements. Donc, le sens, c'est une chose, être distrait par toutes sortes de stimuli autour, dont des nouvelles relations, ça fait partie des stimuli qui ne vont pas nécessairement créer du sens. Donc, le sens, c'est un autre algorithme qui est extrêmement difficile.
On est loin des impalas là, et des fourmis.
On est loin, mais il y a quelque chose définitivement à apprendre des organismes que je dirais plus simples, c'est-à-dire que leur sens est plus clair, leur but commun est plus clair. Et tandis que nous, les humains, on est plus flexibles, c'est super, on a plus de possibilités, c'est aussi super, mais aussi c'est plus difficile de faire des choix.
Eh bien, écoute, on va écouter de la musique maintenant.
OK. Je présente la prochaine chanson.
Là, alors, je crois qu'il va falloir vraiment une grande respiration.
Donc, on va écouter Young the Giant et la chanson s'appelle Cough Syrup.
Radio Cité Genève, Viviane DeVitte.
La bouteille à moitié pleine.
Losing control. These fishes. I'm losing my mind, losing control.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Je suis avec Guillaume Dulude, dont on a vu qu'il était docteur en neuropsychologie, on sait maintenant ce que c'est. On est en train de commenter son livre paru aux éditions de l'Homme, « Je suis un chercheur d'or, les mécanismes de la communication et des relations humaines ». On a vu que nous, les hommes, les humains, on était beaucoup moins bien équipés que les fourmis ou les impalas. Et on vient d'aborder un sujet très délicat. Est-ce que la rencontre change quelque chose? Tu dis que ça devrait changer quelque chose, la rencontre, pour aller quelque part. C'est ce que tu écris dans ton livre.
Oui, c'est le but des rencontres, c'est de trouver un potentiel qui n'était pas là avant une conversation, par exemple. Mettons qu'on réduit la plus simple expression à pourquoi investir de l'énergie dans un dialogue, c'est qu'on veut que la résultante du dialogue ait quelque chose de plus. Donc, ce qu'on va appeler, par exemple, une valeur ajoutée. Mais c'est quoi cette valeur ajoutée-là? Ben, il y a plusieurs symptômes à ça. Premièrement, il y a l'augmentation de l'attachement, de la relation. Donc, tant qu'à prendre du temps ensemble, on veut que quelque chose se passe de plus entre nous. Donc, ça, c'est une des retombées. L'autre des retombées, c'est être capable de bouger ensemble vers quelque chose qui nous intéresse. Donc, l'aspect dynamique de la communication, qui est trop peu abordé en général dans la littérature, parce que la communication, c'est très abordé sous forme verbale, on dit des choses, il y a un message, il y a des mots, il y a un concept. Et moi, je voulais évoquer la notion de mouvement, c'est-à-dire l'aspect mobile du truc. C'est-à-dire, on utilise des mots, c'est des créations mentales artificielles, mais l'idée, c'est de se co-orienter grâce à ces balises-là. Mais pourquoi, dans le fond? Pour créer du sens, pour créer du mouvement vers quelque chose.
Alors, tu ne penses pas qu'il peut y avoir des relations, j'allais dire, gratuites, sans aucun but, qu'être bien, être fluide, Sans but, sans aucun a priori de but, sans rien rechercher.
Mais c'est un but, ça.
Ah, c'est un but, ça, d'accord.
Être bien, vivre...
Là, tu m'as attrapé à mon propre
c'est
piège.
C'est que ça n'existe pas un non-but. C'est impossible. Il y a juste des buts qui sont implicites. Il y a des buts qui sont plus explicites. Okay? Par exemple, tu rencontres un client, on sait qu'il y a une vente, on sait qu'il y a une transaction. OK, c'est plus explicite. Mais mettons en amitié, ou mettons dans les relations amoureuses, c'est quoi les buts? Ben, c'est juste que ce sont des buts qui sont plus implicites, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Et l'idée et le bienfait, c'est de clarifier, mais qu'est-ce qu'on a le goût de vivre? Et ça rend les choses intéressantes. Et c'est là où, selon moi, il y a une étape à parcourir dans nos relations, parce qu'on est dans une société qui est tellement confortable, on est tellement gras, on a tellement juste ça à faire, se regarder, on n'a absolument presque aucune détresse physique, c'est presque impossible de mourir de faim, on est extrêmement protégé. Donc, les buts sont plus difficiles.
Tu veux dire qu'avant, c'était la survie, le
Exactement.
But.
Donc, ça crée des buts automatiques. OK, c'est super, mais maintenant, on a avancé. Mais le principe est le même. C'est quoi les buts? Donc, il faut parler de c'est quoi nos buts implicites. Mais ça veut dire qu'il faut être capable de se parler de ce qu'on veut vivre. Par exemple, mettons qu'on se parle, toi et moi. OK, mais pourquoi on veut se parler? Qu'est-ce qu'on a le goût de vivre dans cette conversation-là? Moi, j'ai besoin de quoi en ce moment? J'ai besoin que tu m'aides à faire quoi? Ça, c'est une conversation intéressante. Donc, ça veut dire qu'avant d'aller dans un sujet, on peut avoir une pré-conversation, c'est-à-dire ouvrir un nouveau sujet de conversation sur qu'est-ce qu'on a le goût de vivre? Et là, on vient de donner un sens puis une trajectoire à notre conversation. Et ça, ça change les choses parce qu'on travaille en triangle, c'est-à-dire il y a toi, il y a moi et il y a une direction commune.
Et il y a le but.
Exactement, exactement. Comme quand tu parles de « on veut se sentir bien », mais se sentir bien, ça doit être défini parce que se sentir bien pour toi à ce moment-là, aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça veut dire pour toi.
Qu'on fasse une bonne émission, toi et moi, Guillaume.
Bon, tu vois, nous, on a un but commun là, en ce moment, aujourd'hui, puis on en a parlé, comment on va procéder et tout ça. Puis c'est comme ça qu'on réussit à avoir du plaisir, puis à être libre, puis dire « ah, OK ». Bon, c'est la même chose avec n'importe quelle conversation. Qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi on prend du temps ensemble? Et ne serait-ce que de clarifier ça ensemble, ça change absolument tout dans les conversations qui semblent anodines.
Alors, moi, je voudrais te dire là qu'il faudrait apprendre ça à tous les enfants. Mm-hmm. À ne pas perdre de temps dans les conversations qui n'ont pas de sens. Oui. À ne pas avoir, ne pas construire sur du relationnel sans but. Où on s'ennuie, où on est même peut-être victime d'ennui ou victime de quelqu'un d'un peu manipulateur. Ou, voilà. Alors ça, est-ce qu'il ne faudrait pas l'apprendre aux enfants?
Non seulement il faut apprendre ça aux enfants, mais malheureusement, on est encore plus loin qu'avant de cet idéal-là parce que la technologie fait en sorte qu'on se replie dans des illusions de communication qui n'ont absolument rien à voir avec les relations humaines.
Tu parles des réseaux sociaux, là.
Absolument, réseaux sociaux. Tous les moyens électroniques sursimplifiés, comme par exemple les émoticônes, les messages textes, tous les messages codifiés simples, ça n'amène aucune retombée relationnelle. En fait, c'est démontré que plus tu utilises des messages simples, plus tu augmentes ton sentiment d'isolement, plus tu augmentes ton anxiété, plus tu augmentes ton sentiment de dépression, plus tu augmentes ton taux de suicide. C'est démontré. Puis les courbes sont dramatiquement plus élevées par rapport à 2011, c'est-à-dire depuis l'introduction du iPhone et des médias sociaux. Donc, on est en train de reculer complètement vers ce qu'il faut faire. Donc, c'est pas seulement qu'il faut montrer ça aux enfants, on est rendu à empêcher les enfants de se blesser. C'est ça qu'il faut faire.
C'est important, ça.
Oui.
Alors, le petit chercheur d'or, lui, il avait un but. Mm-hmm. Alors, tous les enfants, il faut leur donner un but.
Oui, absolument, mais c'est ça. Ce qui est intéressant dans la communication, c'est que la communication va refléter ce que le cerveau essaie de faire. Si tu cherches rien dans la vie, ça veut dire que tu n'es pas en mouvement vers quelque chose. Si tu n'es pas en mouvement vers quelque chose, comment tu vas survivre? Tu vas éviter les risques. Donc, ça va faire des états de stagnation. Puis la stagnation, ça fait de l'évitement. Puis de l'évitement, ça fait de l'anxiété. Donc, ça fait des gens qui sont anxieux. Ça fait des plus jeunes générations qui sont anxieux. Ce ne sont pas des générations qui, un, poursuivent des buts, deux, négocient avec les autres. Parce qu'une communication, c'est toujours une espèce de négociation parce qu'il n'y a jamais personne de d'accord avec toi. Ça n'existe pas une personne qui est née pour être d'accord avec toi. Ce ne sont que des confrontations non violente. Donc, en ce moment, on travaille à protéger les enfants. On ne les équipe pas à faire face au monde. Au nom de valeurs, de toutes sortes de valeurs qui existent, dont on fait la promotion présentement, on travaille à empêcher toute forme d'émotions négatives, ce qui est la pire chose au monde parce qu'une conversation, c'est essentiellement toutes sortes de petites émotions négatives. Mais le bienfait de ça, c'est que tu synthétises la relation et c'est l'antidote de d'une grande partie des mots importants dans notre société.
Tout à l'heure, Guillaume, je veux revenir à ces émotions négatives parce que c'est très important ça. Mais en attendant...
En attendant...
Qu'est-ce qu'on écoute?
En attendant, on se dirige tout droit vers Glass Animals. Et la chanson s'appelle Youth.
Radio Cité Genève. Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Gone, but
êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Je suis avec Guillaume Dulude et nous parlons maintenant des émotions négatives. Alors l'émotion négative, on a l'impression que c'est un oxymore.
Pourquoi ?
Parce que l'émotion, on a l'impression que c'est positif, l'émotion. Pourquoi ce serait toujours négatif ?
Ben, en fait, c'est que la plupart des émotions humaines ont une connotation négative. Quand je dis négatif, négatif veut pas dire mal ou bien. C'est pas ça que ça veut dire. Ah. Négatif veut dire une valence. En cognition, une valence, c'est une connotation. Mais c'est pas bien ou mal. Toutes les émotions, ça fait partie de la vie. C'est comme, je veux dire, ça fait partie du monde. Il n'y a rien de mal ou de bien là-dedans. Ça fait partie des instruments, de l'instrument qu'on a besoin d'utiliser. Donc, mais la plupart des émotions qu'on a sont à valence négative. Et c'est normal parce que les émotions négatives servent à donner un indicateur de comment interpréter le monde pour soi. Parce que imaginez le cerveau lancé dans le néant, dans l'univers, comment il peut s'orienter. On s'oriente en détectant des cibles et il y a une émotion qui va être déclenchée suite à la détection d'une cible. Cette émotion-là nous fait sauver du temps. Ça nous permet de nous orienter sur, par exemple, des stimuli ou des éléments dans l'environnement qui ne sont pas importants ou nocifs. Donc, ça nous permet de dire, ça, j'en ai pas besoin, ça, je vais m'en éloigner, ça, je vais prioriser ça, ça, c'est positif. Donc, ça...
Est-ce qu'on le fait automatiquement, ça?
Oui, ça se fait automatiquement. On n'en a pas conscience, mais ça se fait automatiquement.
Parce que tu dis le mal de vivre, je te cite là, dans ton livre « Je suis un chercheur d'or », tu dis le mal de vivre, l'anxiété, la dépression, le doute de soi qui empêche d'oser est l'une des racines les plus coriaces de la stagnation et de la paralysie.
Oui.
Bon, alors...
Bon. Est-ce que tu veux qu'on en parle?
Ah oui, il faut en parler. C'est un peu le cœur du livre aussi. Hein?
Oui.
Parce qu'en fait, si tu veux, à un moment dans ton livre, tu dis, après que vous ayez fini ce livre, donc refermer ce livre, vous devez avoir des moyens de réaliser vos rêves enfouis.
Oui.
Donc, tu nous donnes des clés. Donc,
oui.
Il faut que tu nous... décortique tout ça pour nous donner les clés.
Oui,
il faut qu'on les décortique,
exactement.
Là, dans
exactement.
Cette émission.
Donc, le doute de soi, le mal de vivre la dépression, ce sont des états, évidemment, qui sont nocifs. Ce ne sont pas de strictes émotions négatives simples. Les émotions négatives, en soi, il n'y a pas de problème. Ça dépend comment on les utilise ou on les évite ou on ne les utilise pas. Parce que les émotions vont rester, si je peux dire, dans notre système. S'ils ne sont pas utilisés, si on n'en fait pas quelque chose, elle va se convertir en quelque chose qui va avoir tendance à se revirer contre soi. Comme par exemple le doute, comme par exemple l'anxiété, le mal de vivre, la dépression, la stagnation, des choses comme ça. Et ça, c'est une conséquence d'une mauvaise compréhension des émotions négatives. Quand on commence à comprendre qu'est-ce qu'une émotion négative, les différents sous-types d'émotions négatives, les messages que ça veut dire, on est capable de les utiliser comme une forme de renseignement ou d'information pour affiner et aligner notre intentionnalité, nos buts, ce qu'on va dire, ce qu'on poursuit. Donc, tout est une question de convertir ces informations-là en trajectoire, en mouvement vers l'avant. Et ça, c'est fondamental dans une communication, parce que là, on parle du doute, par exemple, envers soi-même, mais il y a une communication envers soi-même. Tu ne peux pas communiquer mieux avec un autre humain, mieux que ce que tu le fais avec toi. C'est le même appareil, c'est le même équipement, ce sont les mêmes règles du jeu. Si tu ne sais pas comment t'écouter toi-même, tu ne peux pas écouter une autre personne.
Mais c'est impossible.
Pourtant,
là, j'ai lu quelque chose qui m'a interpellée, mais je suis un peu d'accord avec toi. La méditation, tu dis que c'est une immense industrie, mais que c'est un peu, au fond, c'est pas...
C'est surévalué.
Voilà.
Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Parce que c'est très difficile en psychologie... De séparer ce qui fonctionne du branding, du marketing. Il y a des modes surtout, il y a des modes en alimentation, il y a des modes de yoga, il y a des modes de méditation, il y a des modes sur tout ce que tu peux concevoir, tout ce qui vend, il y a une mode. OK. Quelle est la différence entre ce qu'on essaie de vendre comme produit avec l'effet réel d'une activité? C'est ça qui est important. Et là, en ce moment, il y a des méthodes magiques qui sont vendues, comme la méditation, c'est une méthode qui est vendue de façon quasi magique, mais Puis je dis pas que c'est mauvais la méditation, mais il faut comprendre que ça a un spectre d'impact limité, la méditation.
Alors j'aime bien aussi, tu dis, l'énergie, c'est un terme socialement brûlé.
Oui.
Ça m'a amusé, ça.
Oui, le terme socialement brûlé veut dire qu'il y a des pré-associations qu'on fait avec des expressions, des thèmes ou des n'importe quel stimuli qu'on a associé dans l'environnement avec tout et avec rien. Ce qui fait en sorte que c'est associé avec quelque chose qui n'a plus de crédibilité. Donc, par exemple, énergie, ça veut dire tout. Tu sais, c'est comme, ce sont des mots généraux qui ne sont pas associés à quelque chose de précis, qui ont une tendance un petit peu ésotérique.
C'est un fourre-tout.
C'est un fourre-tout. Ouais. Et n'importe quoi qui est flou n'a plus de crédibilité, n'a pas de pouvoir ou de potentiel de créer quelque chose. Ouais. Donc, c'est ce que je veux dire par socialement brûlé. Puis donc, il y a des termes à une certaine époque n'étaient pas socialement brûlés, mais comme ça a été utilisé à toutes les sauces, ça a perdu sa crédibilité. Puis là, quand tu veux ramener le terme, ça ne fonctionne plus.
Alors, tu dis aussi, ou tu écris plutôt, la volonté de créer un comportement ou simuler un potentiel à partir de rien nous empêche d'y accéder. C'est le drame du potentiel humain. Au lieu de nous éduquer, comprendre les lois, les respecter, nous créons du chaos.
Alors, pour un exemple concret de ça, OK? Il faut faire la différence entre des processus mécaniques dans le cerveau et des résultats qu'on observe, des effets. Un effet ou un symptôme, c'est différent de la mécanique qui l'a créé. Il faut comprendre la différence entre les deux. Évidemment, on recherche des choses, on recherche des effets. C'est correct, ça. Par exemple, on veut tomber en amour. Je comprends, il n'y a pas de problème avec ça. On veut avoir des belles relations. Aucun problème avec ça. Mais ceci, ce sont des symptômes, ce sont des conséquences d'une mécanique qui est à la base. Cette mécanique-là, c'est celle qu'il faut maîtriser. Parce qu'une relation, c'est une conséquence. On ne peut pas directement fabriquer une relation. Ça ne se fait pas. C'est impossible.
Mais alors, les gens qui vont sur Internet pour rencontrer leur moitié,
tu m'enlèves les mots de la bouche.
Ça m'a toujours paru étrange.
Mais c'est parce que c'est étrange, parce que chacun court après un effet qu'il essaie de ressentir. Donc, évidemment, quand les gens se rencontrent, mais ils ne le ressentent pas. Fait qu'on essaie de simuler l'effet. Mais tu ne peux pas simuler l'effet. Ça ne s'exige pas une relation. C'est une conséquence mécanique. Donc, qu'est-ce qui arrive quand tu ne le ressens pas, la relation? Tu te dis, ah, ça ne doit pas être la bonne personne pour moi. Et voilà, c'est terminé. Ou tu dis, peut-être que moi, je ne suis pas assez. Donc là, ça augmente le doute de soi. Donc, en travaillant à l'envers, c'est la façon de dévaloriser les autres et c'est la façon de se dévaloriser soi. En ne comprenant rien au fonctionnement cérébral, cognitif, comportemental, on se prive d'opportunités qu'on aurait pu créer. Et on avait les ingrédients devant soi. Mais comme on ne sait pas, on ne s'est pas enseigné, on se dévalorise, on doute de nous, donc on a peur, on s'implique de moins en moins, on est de plus en plus, je dirais, protecteur. Donc, c'est un cercle vicieux qui nous fait perdre confiance en ce qu'on peut créer en nous-mêmes, en notre propre potentiel, puis notre potentiel de développer des relations.
Mais tout le monde n'est pas comme ça, Guillaume.
Qu'est-ce que tu veux dire? Comme ça, comment?
Comme ça, comment? Tout le monde n'est pas dans ce schéma de dévalorisation, de doute de soi, de...
Je dirais, c'est pas noir ou blanc. Okay? Ouais. Il y en a qui le sont plus que d'autres. Ouais. Il y en a qui consciemment ou pas, ils font des bons comportements qui font en sorte qu'ils ont effectivement plus de succès. Il y en a qui ont plus de succès que d'autres.
Et il y en a qui attirent plus.
Exactement. Et les gens vont dire, ah, mais cette personne-là est tout simplement talentueuse.
Et qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'on n'est pas capable de relier un effet avec des processus qui expliquent ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, on catégorise des gens avec des gens capables et des gens incapables. Des gens talentueux, des gens pas talentueux. Des génies et des cancres. Donc, quand tu n'es pas capable d'expliquer un comportement, on associe ça avec une espèce de magie qu'on appelle, par exemple, Dieu, ou le talent, ou la chance, ou le privilège, tiens, qui est à la mode en ce moment. C'est-à-dire quelque chose qui est complètement déconnecté de tout comportement. C'est comme un effet magique qui arrive comme ça, et donc il y a des gens qui ne l'ont pas, il y a des gens qui l'ont.
C'est de la potion magique.
Oui, c'est de la potion magique. Donc, mon livre, pour moi, ça sert à faire la lutte à cette magie-là. La magie, il faut la travailler.
Alors, qu'est-ce qu'on écoute maintenant?
Alors, on écoute une chanson extraordinaire qui s'appelle Ramona de Nightbeds que je vais découvrir avec vous.
Radio Cité Genève. Viviane Devitte.
La bouteille à moitié pleine.
My love's gone off all the rails. I'm like a ship without a sail, sinking underneath the waves. Yeah. Come on, Ramona, church bells are ringing, everyone's singing. Why do we feel so alone?
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Guillaume Dulude. Guillaume Dulude qui a écrit un livre qui est paru aux éditions de l'Homme, « Je suis un chercheur d'or », sous-titré « Les mécanismes de la communication et des relations humaines ». Alors, tu as quelque chose qui est implicite dans ce livre. Tout au long du livre, au fond, tu cherches à nous démontrer quelque chose, c'est que c'est lutter contre les sortes d'étiquettes qu'on met sur tout le monde, l'obsession des catégories. C'est très important, ça.
Oui, parce que c'est en fait une tendance sociale importante qui est en émergence depuis une dizaine d'années, mais particulièrement importante depuis 3 ans. Alors, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a de plus en plus de sous-groupes qui s'identifient à une catégorie en particulier. Ça concerne typiquement l'identité, le genre et la race. Donc ça, ces espèces de familles-là, d'étiquettes-là, c'est voué à l'échec. Parce que plus tu augmentes le nombre d'étiquettes, parce qu'une catégorie ou une étiquette, c'est une création mentale. Tu peux en faire à l'infini. Plus on va dans la sous-segmentation des catégories humaines, plus tu augmentes les conflits entre les gens et plus ça empêche le fait de créer des relations, justement.
Alors, qui a lancé ces théories? C'est parti d'où? C'est parti d'université américaine?
Oui, il y a des courants qu'on appelle des courants postmodernes qui sont émergés à la fin des années 1980 et ça a été récupéré beaucoup par les sciences sociales dans les universités, particulièrement les campus américains. Et c'est une espèce de... En fait, c'est un courant anti-oppression qui sous-tend que toutes les lois qui gouvernent nos sociétés ou tout notre système est par définition un système d'oppression contre les minorités. Donc, le sous-titre de ça, le sous-texte, c'est une lutte contre toute forme de hiérarchie ou d'oppression. Donc, évidemment, chaque communauté qui va s'identifier avec une étiquette sous une minorité va être alimentée par cette fougue-là de la lutte contre le système. Et c'est... Je veux dire, les fondements de ça ne sont absolument pas scientifiques. C'est pas démontré. C'est une vision du monde. Et le problème, c'est que cette vision du monde-là crée des impacts négatifs. Parce qu'on peut dire, oui, mais si une vision du monde n'est pas tout à fait exacte, mais crée des choses positives. OK, mais parfait. Mais si cette vision du monde-là crée
des choses... Elle divise les hommes, en fait.
Elle divise, exactement, sous forme de catégories qui n'existent pas. Et la preuve, c'est que c'est un cercle vicieux. Plus tu catégorises les gens, plus les gens restent insatisfaits et chaque catégorie se sous-divise en sous-catégories. Donc, chaque catégorie, maintenant, se multiplie de sous-catégories et chaque sous-catégorie se sent encore plus victime des autres et tu as des luttes contre les sous-catégories maintenant. Donc, tout ce qui est catégorisation, c'est un échec total et on ne devrait pas soutenir des efforts de catégorisation. Parce que c'est l'antipode de ce qu'on appelle la collaboration, l'antipode de ce qu'on appelle les relations humaines, la poursuite d'objectifs communs. Donc, si l'obsession, c'est s'auto-définir et de revendiquer des choses, c'est presque impossible qu'on puisse s'en sortir. Donc, c'est quelque chose qui est très préoccupant.
Alors... Dans ce livre, effectivement, tu défends une communication qui va lutter contre ça.
Oui.
C'est assez implicite.
Oui.
Je ne l'avais pas totalement perçu, tu vois.
Oui.
Donc, c'est important qu'on en parle au micro aujourd'hui pour que les chercheurs d'or, que vont être les gens qui vont lire ton livre, le recherchent à l'intérieur du livre.
Oui, puis en écrivant le livre, je me suis freiné plusieurs fois en me disant, est-ce que je fais un chapitre là-dessus? Mais je voulais pas que ça se transforme en quelque chose de politique. Je voulais rester quelque chose qui est simple, qui est personnel, qui est de l'ordre de la psychologie, des relations. Et c'est pour ça que j'ai fait une section à la fin du livre où je raconte comment j'utilise exactement les mêmes principes, peu importe où je vais dans le monde. Ce sont exactement les mêmes mécanismes. Et donc, j'essaie implicitement de faire la démonstration que qu'on soit en Irak, qu'on soit en Amérique du Sud, qu'on soit avec une personne d'un sexe différent, que ça n'a aucune importance. Chaque personne peut se définir comme elle le veut. Mais la façon de créer des relations de confiance, ça ne change pas. C'est indépendant de la catégorie. C'est ça que je voulais amener comme message.
À la fin de ton livre, tu racontes quelque chose qui est très frappant, d'ailleurs. Tu as emmené un groupe dans une tribu. Je ne sais pas si c'est en Afrique ou en Amérique du Sud.
C'est en Afrique, en Éthiopie.
En Afrique, en Éthiopie. Et tu dis, tu connaissais le chef de cette tribu.
Oui.
Et tu avais développé... En d'autres temps, je crois 10 ans avant, de bonnes relations, de fortes relations d'homme à homme avec lui.
Exact.
Et puis tu amènes ce groupe, et là, bizarrement, à un moment, tu te sens en danger et tu penses que ton groupe va être en danger. Et ça, c'est dans l'air, en fait, parce que ce n'est pas encore déclaré, mais la prévision de ce malaise va te permettre de ne pas tomber dans le piège et de ne pas faire tomber ton groupe dans un piège qui aurait pu être mortel.
Exactement. Un humain, c'est puissant. Un cerveau humain, c'est puissant. Et n'importe quelle puissance peut aller d'un côté ou de l'autre. Donc, dans le cas de ce chef-là, il était tombé en amour avec une des participantes. C'est ce que j'avais absolument, mais absolument pas prévu.
Ah ben, on ne prévoit jamais les amours. Hein?
Non, ça, j'avoue, ça a été une découverte quand je me suis aperçu de ça à la fin du périple, parce que là, il fallait s'en aller. Mais cet homme-là ne voulait pas qu'on s'en aille, parce que ça veut dire que l'amour de sa vie s'en va avec nous. Donc là, on ne pouvait pas s'en aller comme ça. On dépendait 100% de son accompagnement pour pouvoir quitter la communauté. Donc ça a été très stressant. On a réussi à faire accepter le fait qu'on part, donc créer un deuil. J'ai organisé littéralement un deuil plus conscient. C'est ce qui fait en sorte qu'on a réussi à repartir.
Le passage où il tue une chèvre sous l'œil de ton groupe, oui. Qui sont des Européens, ou je sais pas, ou des Canadiens, ou des Américains, enfin en tout cas des Occidentaux, qui ne sont pas du tout habitués à ces méthodes-là, et on leur tend des morceaux de cette malheureuse chèvre qu'ils viennent de voir sacrifier, ils ont encore du sang sur eux, et tu dis « souriez, 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 parce que sinon ça va mal tourner ».
Vraiment, ça a été un des moments stressants de ma vie. Je me souviens cette soirée-là. Ouais, c'est parce que là, parce qu'il y a une différence en avoir peur pour soi, ça ne regarde que moi. Mais quand d'autres personnes dépendent de toi, ils comptent sur moi pour les protéger, pour qu'on puisse sortir de là vivant. Donc là, ça m'a fait peur.
Mon cher Guillaume, on arrive à la fin de cet échange.
Déjà.
Ben oui, ça passe toujours trop vite quand c'est passionnant comme ça, parce que franchement, tu nous as passionnés. Alors, je répète qu'on a parlé ce matin de ton livre, paru aux éditions de l'Homme, « Je suis un chercheur d'or, les mécanismes de la communication et des relations humaines », et tu dis « augmenter de façon significative l'efficacité de vos interactions humaines ». Alors, merci d'avoir parlé à nos auditeurs de Radio Cité Genève ce matin. Merci de les avoir, je crois, sans doute, leur avoir permis d'augmenter l'efficacité de leurs interactions. On va essayer. On va essayer d'appliquer ce que tu nous as enseigné.
On essaye. On travaille tous là-dessus, moi de même.
Merci à toi.
Merci.
Et puis merci à Olivier Steinmetz qui nous a enregistrés ce matin. Peut-être à bientôt.
À bientôt, j'espère.
Au revoir.
Radio Cité Genève. Viviane DeVitt.
La bouteille à moitié pleine.